des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. On ne compte plus les publications qui ont pour sujet le temps. Depuis la nuit des temps, justement, philosophes et physiciens s'intéressent à ce phénomène qui nous touche tous. Nous naissons, nous mourons, et entre les deux, du temps fait d'événements passe et nous érode. J'entendais dernièrement à la radio une personne se lamenter « Avec les grèves, nous avons pu comprendre à quel point notre emploi du temps était serré. Chaque retard de train ou de métro équivalait à la suppression d'une activité ou d'un rendez-vous dans notre agenda. » Mais que dit-on précisément quand nous nous plaignons de ne pas avoir de temps? Et d'abord, qu'est-ce que le temps? Où se cache-t-il? Dans les horloges, comme le suggère Martin Heidegger dans son livre « Qu'est-ce qu'une chose ?» Considérons cette horloge. Où est le temps? Nous voyons un cadran et les aiguilles qui se meuvent, mais de temps, point. Nous pouvons ouvrir l'horloge et l'inspecter. Où est le temps là-dedans? Mais cette horloge ne donne pas le temps de manière spontanée. Elle est réglée sur les indications relatives au temps que donne l'observatoire allemand de la marine à Hambourg. Si nous faisions le voyage jusqu'à là, et que nous demandions à ces gens où ils se procurent le temps, nous ne serions pas plus avancés qu'avant de partir. Si même dans la chose qui indique le temps, celui-ci n'est donc pas trouvable, alors le temps semble en effet n'avoir rien à faire avec les choses mêmes. D'un autre côté, ce n'est pas simple façon de parler que de dire « avec l'horloge, nous fixons le temps ». Voudrions-nous le nier? Comment y parviendrions-nous? Non seulement l'ordre quotidien s'écroulerait, mais tout calcul technique deviendrait impossible. L'histoire, tout souvenir et toute décision périraient. Le temps, nouvelle série d'émission en compagnie du docteur Dominique de Michel, médecin et psychanalyste. Dominique de Michel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors Dominique, le temps se cache-t-il dans l'horloge? Vous êtes psychanalyste, j'ai entendu dire qu'il y avait toujours une horloge dans un cabinet de psychanalyste en face du divan. À quoi sert cette horloge?
Le texte de Heidegger, il dit bien au fond que, il dit bien que le temps, en tout cas, il n'est pas dans les objets. Hein. On sait bien que, parce que l'horloge, c'est quoi? L'horloge, au fond, on pourrait dire, c'est le temps qui est traduit en espace. Hein. Si on oppose deux choses, l'espace, c'est l'espace du cadran avec les heures, les minutes et les secondes qui passent. Et au fond, on voit quelque chose qui se déroule dans l'espace et ce déplacement circulaire, puisque là, il s'agit d'un temps circulaire dans une horloge, enfin, dans une horloge avec une trotteuse, mettons, eh bien, ce temps circulaire nous donne une forme de représentation du temps. Donc, on voit bien que mettre en scène le temps qui s'écoule, c'est le mettre en scène dans un objet, mais comme le dit Heidegger, le temps, il n'est pas dans l'objet. Voilà. Une autre perception quand même du temps qui passe, on pourrait dire, c'est le corps. Hein, parce que, voilà, on peut revoir un ami, par exemple, qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années, et puis on va voir, mais là aussi, on est dans une forme de représentation dans l'espace, on va voir la trace du temps. Parce qu'on va dire, tiens, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais 3-4 cheveux blancs et on les voyait à peine. Maintenant, tu as des cheveux blancs, par exemple. Ou le temps a passé, je vois que tu as pris un petit peu de ventre, ou au contraire, tu as maigri un peu. Donc, on voit de temps en temps, dans l'objet, le temps qui passe. Ou on voit la trace du temps. On ne peut pas dire, d'ailleurs, qu'on voit le temps qui passe, mais on voit la trace du temps.
Mais alors, dans une analyse, c'est très important, le temps de la séance, il ne faut absolument pas le dépasser.
Alors le temps de la séance, il est limité pour ce qui me concerne pour deux raisons. La première, c'est une raison extrêmement pratique, c'est-à-dire les professionnels psychanalystes sont comme les autres professionnels. Voilà, on voit mal un coiffeur passer 3 heures pour faire une coupe de cheveux, quand bien même il y aurait peut-être quelques mèches à faire, encore que chez les dames, de temps en temps, ça peut durer longtemps. où on voit mal, au fond, je sais pas trop quoi, un boulanger mettre une semaine pour faire une baguette. Il y aurait quelque chose qui n'irait pas. La deuxième raison, qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus fondamentale, et surtout qui a une fonction dans le cadre de la relation, c'est que la fin de la séance termine l'échange et qu'elle invite surtout l'autre à continuer l'échange en dehors de la présence. Vous voyez, par exemple, ce matin à l'hôpital, hein, vous voyez, ce matin, le jeudi, puisqu'on enregistre les émissions en général le jeudi matin, je suis à l'hôpital et ce matin, je discutais avec une de mes collègues à propos de l'accompagnement des personnes que nous voyons au sein de l'hôpital et où la question de la durée est un vrai problème puisque on peut pas nous accompagner les gens en les écoutant pendant extrêmement longtemps parce qu'autrement, eh bien, au bout de 2 mois, toutes les consultations seraient pleines. Donc, il y a une limite dans le temps, et on propose un accompagnement qui va être de 4, 6, peut-être 7 temps d'écoute, consultation ou séance, voilà, on pourrait dire, mais même temps de consultation. Puis ensuite, il faut trouver une autre modalité. Et là, je rediscutais avec ma collègue en lui disant, tu sais, lorsqu'il y a eu un travail qui a été fait, lorsqu'il y a un lien qui a été fait, qu'on sent qu'on ne peut pas arrêter ce lien, alors on peut le raccourcir et garder un rythme de présence et un rythme d'échange. Et la fonction principale pour moi, c'est de pouvoir dire à l'autre, vous allez continuer ce travail, in fine, l'objectif étant, vous allez intérioriser la fonction du psychanalyste. Et quand je dis intérioriser la fonction du psychanalyste, c'est surtout intérioriser ce qu'on a projeté sur l'analyste. Hein, c'est pas le génie propre de l'analyste, c'est ce qu'il est, ce qu'il représente en tant que fonction, c'est-à-dire en tant que partenaire qui nous aide au fond à réfléchir et à penser, et on va revenir à la question du temps, et à penser l'histoire.
Et une dernière chose par rapport au temps et puis l'analyse pour cette émission, l'intervalle entre deux séances aussi, c'est quelque chose qui est prémédité.
Alors pour moi, ça, je suis extrêmement, extrêmement strict. Lorsque je revois, et je vais vous dire après pourquoi, moi, quand je reçois des gens, je leur dis toujours au début, on se voit une fois par semaine. C'est-à-dire, je ne dis pas, on se voit tous les 15 jours, on se voit une fois par mois. Et je leur dis, moi, je ne le fais pas. Peut-être il y a d'autres gens qui le font, mais moi, je ne le fais pas parce qu'on n'est pas dans une dynamique de construction, de co-construction. Vous voyez, donc ça, pour moi, je suis vraiment très strict. On se voit une fois par semaine. Je ne suis pas du tout comme certains psychanalystes qui voient les gens 2 fois ou 3 fois par semaine, voilà, avec 3 séances de 3 quarts d'heure. Non, de temps en temps, je peux voir les gens pendant 3 quarts d'heure, parfois même une demi-heure, voilà, ça peut arriver. Mais je vois les gens toutes les semaines. Parce qu'il me semble que cette dynamique de la semaine, c'est une dynamique du temps qui est profondément inscrite à l'intérieur de nous-mêmes. Donc votre question, très centrée sur la psychanalyse, là, me semble intéressante parce que finalement, c'est vous qui m'en faites prendre conscience. En effet, cette structuration, cette scansion, on pourrait dire, du temps, elle est importante à la fois dans la régularité. On ne rate pas les séances, sauf cas particulier, on s'en est bien expliqué. Et le temps est limité. Et ça, c'est la régularité pour tenir la valeur du lien et la fin de la séance pour dire que ce lien, il n'est pas infini et qu'il va falloir que l'analysant se le réapproprie. Il se réapproprie le lien.
Alors, docteur Dominique Michel, nous allons parler du temps, un vaste sujet. Nous allons l'aborder à notre manière. Et dans cette première émission, eh bien, nous allons voir de quelle manière nous pouvons parler du temps avec notre langage. Et nous irons voir du côté des mythes pour nous aider à comprendre ce qu'est le temps. Alors d'abord, le temps et le langage. Nous avons pléthore d'expressions où le temps prend racine.
Voilà, il y a plein de choses.
On s'y perd.
Alors le temps, on sait que ça peut être l'instant, ça peut être la durée, ça peut être la perception du temps, ça peut être le changement. On en parlait dans le corps, par exemple, qui prend de l'âge. Voilà, et mais on... Il y a aussi des tas d'adjectifs ou de mots qui sont associés au temps. Il y a le temps civil, il y a le temps légal, il y a le temps local, il y a le temps propre aussi. Hein, voilà, un temps propre. Alors on peut se demander, c'est quoi le contraire d'un temps propre ? Alors c'est peut-être un temps banal ou un temps sale, je ne sais pas trop quoi. Alors un temps sale, on sait ce que c'est, mais du côté dans l'autre sens, qui serait un sale temps. Hein. Et on sait bien que quand on dit un sale temps, on peut entendre ce mot-là à la fois sur le plan atmosphérique, mais aussi sur le plan psychique aussi. Hein. Ben dis donc, ce que tu traverses en ce moment, c'est difficile. Hein. C'est un sale temps pour toi. Hein. On voit bien ça. Et puis, il y a des rythmes du temps qui n'ont rien à voir avec notre perception. Voilà, les ginkgo biloba, il paraît que ça peut vivre 2000 ou 3000 ans. Ben, c'est sûr que leur perception du temps, probablement, n'est pas du tout la même que la nôtre. Voilà. Un papillon qui est presque une sorte d'être tout à fait éphémère, il a une autre perception du temps. Et puis alors voilà, on peut citer plein de choses, les temps modernes, les temps préhistoriques, les temps immémoriaux.
On voit déjà la confusion, effectivement, de ce qui va se cacher derrière chacun de ces termes. Cette confusion que nous allons tenter de démêler, justement, au fil de cette série d'émissions. Docteur Dominique Michel, je sais que vous êtes féru de mythes, de mythologie. Alors, est-ce qu'on peut remonter, justement, le temps pour tenter de comprendre ce que pensaient les anciens, ce qu'ont théorisé déjà les anciens ?
Vous savez, l'idée pour moi fondamentale dans la mythologie, c'est que ce qui se joue en particulier dans les mythes grecs, puis ensuite dans les mythes latins qui vont reprendre ou ajouter des choses aux mythes grecs, c'est au fond une mise en scène du psychisme hein, et des relations humaines. Probablement la première grande interrogation du côté du temps, elle est posée par la mort. Hein. On dit d'ailleurs que l'enfant, il atteint l'âge de raison lorsqu'il a environ 7 ans, essentiellement parce qu'à ce moment-là, il a une conscience du temps. Vous savez que les enfants qui ont 2-3 ans, si on leur dit c'est demain, si c'est la semaine prochaine, si c'est « oui mais Noël mon chéri, c'est dans 6 mois, on ne va pas en reparler maintenant », eux, leur perception du temps est difficile et la notion d'échelle est compliquée. De temps en temps d'ailleurs, entre hier, c'est passé et demain, c'est à venir, c'est déjà pas très très simple. Hein, d'autant que pendant un certain temps, les enfants, les enjeux contradictoires, ça les gêne pas. C'est-à-dire, on peut être ici, mais on peut être ailleurs. Mais toi, mamie, si tu es au bout du fil, c'est comme si tu étais à côté de moi. Et puis, peut-être tu peux être en même temps dans ta voiture et ailleurs. Donc, probablement, ce qui va nous interroger, nous, sur le temps, fondamentalement, c'est, on pourrait dire, l'arrêt de la perception du temps, c'est-à-dire la mort. À 7 ans, l'enfant a la conscience du temps, schématiquement, ça peut être un petit peu avant, ça peut être après, voire bien après, et il a conscience du temps parce qu'il a conscience de la mort. Quand je dis la mort, ça ne veut pas dire obligatoirement la mort physique, ça veut dire qu'à un certain moment, eh bien, il sait que, parce qu'on lui a dit, que les fleurs qui ont été rapportées par les invités samedi dernier, eh bien, elles vont disparaître et on va les mettre à la poubelle. Elle sait qu'il y a quelques années, il y a eu un hamster dans la maison et puis que le hamster, il est mort. Alors, voilà, à un certain âge, l'enfant, il peut prendre un petit gendarme dans sa main, un petit peu l'écraser, le reposer et être persuadé que l'enfant et être persuadé que le gendarme va revivre après. Hein. Cette notion du temps nécessite une notion de la mort. Et la notion de la mort, c'est le fait que c'est un phénomène naturel, obligatoire et irréversible. Hein. Ces trois mots sont importants. Donc voilà, on pourrait dire, il me semble, la première notion du temps. Dans la mythologie, il y a un dieu particulier qui apparaît, qui est le dieu Cronos. Dans l'ordre d'apparition, dans la cosmogonie grecque, il y a d'abord, pour les hommes, on va dire, hein, il y a Gaïa, voilà, mais il y a Uranos, Cronos et puis Zeus. Ils vont chacun avoir des petits problèmes avec leur père, et celui du milieu, il s'appelle Cronos. Cronos, il va aller émasculer son père, et à partir de là, va naître Aphrodite. Cronos, dans la mythologie grecque, ça s'écrit C-R-O-N-O-S. C'est-à-dire, il n'y a pas de H. Et il va y avoir, à un certain moment, l'apparition du temps, puisque à partir du moment où le père cesse d'avaler ses enfants, il autorise une filiation, c'est-à-dire les enfants existent. Il se sépare de la mère, parce que Uranos est toujours mélangé en permanence avec Gaïa. Et donc, on pourrait dire, à partir du moment où Cronos coupe les génitoires de son père, va jaillir et le temps et l'espace. Puisque Uranos, hop, il monte au ciel, Gaïa, elle reste sur Terre, voilà l'espace qui s'ouvre. Et à partir du moment où il y a des enfants, bah, des enfants, il y a une génération, tout le monde le sait bien, on vieillit, on est enfant, puis ensuite on est adolescent, puis on est adulte, puis on est un seigneur, puis ensuite on est une personne âgée, puis ensuite on est un grand vieillard, on a la chance de pouvoir l'être. Et à un certain moment, donc en raison de cette chronologie-là, de cette apparition du temps, je voudrais dire, voilà, Cronos, C-R-O-N-O-S, va devenir C-H-R-O-N-O-S. Il y a un très beau texte de Cicéron, d'ailleurs, donc un auteur latin, je ne sais plus trop quand, mais quelques siècles après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, qui va expliquer ça, qui va dire, voilà pourquoi ce Cronos, C-R-O-N-O-S, mot tout à fait banal, va incarner le temps.
Alors, après la mythologie, la plupart des philosophes, voire tous les philosophes de l'Antiquité, vont se pencher sur cette question du temps. Et ils vont la rapprocher de la question de l'âme et de la question de l'éternité.
Je pense que, vous savez, c'est Leibniz qui pose cette question en disant « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» C'est vrai que probablement, c'est la grande question. Le temps, je pense que d'emblée, il est lié dans notre perception à la question du changement et à la question de la succession des jours et la succession des années. Si le temps ne change pas du tout, il est perçu comme arrêté. De temps en temps, il arrive, par exemple, moi je peux recevoir des personnes comme ça qui ont, mettons, 40 ans et quand on les regarde, elles en paraissent plutôt 20. Et paraissant avoir 20 ans, peut-être que ça peut leur faire plaisir. Mais c'est quand même problématique. C'est-à-dire que de temps en temps, dans le corps en particulier, le temps s'arrête. Le temps, pour nous, il est d'abord rythmé par l'alternance du jour et la nuit, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Il est rythmé par toutes nos activités. Et puis, on peut penser qu'il y aurait une sorte de temps immobile. Alors, on sait que le temps immobile, probablement, ça n'existe pas, puisque les physiciens, vous opposiez dans votre introduction le temps des philosophes et le temps des physiciens, les philosophes nous disent, il y a eu une période, voilà, il y a environ 14 et quelques, mettons 15 milliards d'années, où il y a eu le Big Bang, c'est-à-dire la naissance de quelque chose. Dans ces premiers temps, on sait un tout petit peu ce qui se passe avec un univers très très particulier, opaque, dans lequel la lumière ne passe pas. Et puis au bout de quelques millions d'années, il y a des choses qui se structurent. Et les physiciens disent, avant ce moment-là, on ne peut rien dire. Voilà, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et on ne peut rien dire probablement parce que le temps n'existe pas. Mais dire le temps n'existe pas, pour nous, ça n'est pas représentable. On ne peut pas se représenter ce que... Voilà, je peux dire par exemple, pendant une minute, je vais m'arrêter de parler. Et puis les auditeurs vont entendre peut-être cette minute de silence. Mais le temps, il va continuer en tout cas à s'écouler.
Et cependant, docteur Dominique de Michel, pendant des millénaires, l'éternité a eu une réalité. Dans la religion, saint Augustin, Platon parle de l'éternité.
Platon, il parle en effet d'éternité, mais c'est du côté de l'immortalité. Mais l'immortalité, ça n'est pas représentable, il me semble, pour nous. Il y a énormément de romans, en particulier de science-fiction, qui ont imaginé des scénarios dans lesquels les individus ne mourraient pas. Ça se termine toujours de manière catastrophique. On peut d'ailleurs très bien imaginer d'ailleurs, que la science nous permette de vivre extrêmement vieux, on remplace des tas de choses au fur et à mesure. J'aurais tendance à penser quand même que ça n'empêchera pas de poser la question du sens de la vie, et puis de toute façon, on pourra toujours avoir un arbre qui nous tombe sur la tête, donc il y aura toujours des accidents partout.
Et l'éternité, n'est-ce pas justement dans l'écoulement du temps passé, présent, futur, que nous imaginons comme ça? On va voir peut-être que ça n'a aucun sens. Eh bien, je prends par exemple le tétragramme qui est la yod e vav e, qui est le verbe être, qui serait, évidemment, c'est une hypothèse, conjugué aux trois temps. Mm-hmm.
Je suis qui j'étais, qui je suis et qui je serai.
Hein, ce où qui
je
est suis... intraduisible de toutes les manières,
voilà,
effectivement.
Voilà, voilà.
Et mais qui donne quand même cette idée que bah, ouais. ça a été pensé, ça a été réfléchi par les anciens.
Sur le plan philosophique, je ne me sens pas tellement de compétences particulières là-dessus. Si on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer cette émission, c'est parce que vous êtes occupé demain et la semaine prochaine, que peut-être vous pensez déjà à vos vacances d'été, que vous avez une famille, des proches et que vous avez envie de les rencontrer. Mais on pourrait se dire, ça n'aurait aucun sens que je vous dise, Simon, on va se retrouver dans 2-3 millions d'années, voilà. Et encore, j'aurais envie de vous dire, si vous trouvez un petit moment, mais ça n'aurait aucun sens de se dire se retrouver un petit moment si c'est dans 2-3 millions d'années, hein. Donc, ce qui donne le prix aux choses, c'est quand même la mort. On est là parce qu'on sait que le temps nous est compté. Donc, j'aurais tendance à penser que l'immortalité, ça n'est pas représentable. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est pour ça qu'on peut, on sait ce que c'est que mourir, on sait ce que c'est que quelqu'un qui est proche et qui est mort, mais on ne peut pas se représenter l'immortalité. Ce qu'on peut juste se dire, c'est la vie, c'est ce que je crois, moi, personnellement, la vie a du sens, donc j'aurais tendance à penser qu'il y a un existant après la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans cet existant? J'en sais rien.
Je voudrais revenir sur justement cette perception du temps qui est dans notre vocabulaire, dans notre façon de parler, liée au passé, au présent et au futur. Alors le passé, il est derrière nous, le futur, il est devant nous. C'est une vue de l'esprit, justement, chez les Hébreux, le passé est devant eux. Parce que le passé, c'est ce qu'on sait, et le futur est derrière eux, parce que le futur, on n'en sait rien.
Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu, mais moi, j'aime beaucoup dire et redire que le passé, ce n'est pas quelque chose qui est passé, c'est-à-dire qui est clos et qui est fini. Je dis souvent, le passé, c'est notre présent intérieur. Et pour reprendre ce que vous disiez là, il me semble que ce présent intérieur, qui est la sommation de toute notre histoire, elle a pour fonction principal de préparer l'avenir. Donc, au fond, on pourrait dire le passé, c'est ce présent intérieur qui va nous permettre de gérer, d'anticiper et de faire des choix, hein, qui sont des choix existentiels, on pourrait dire. Voilà. Donc, je pense qu'on est toujours que dans l'instant, mais l'instant, il est l'éphémère par excellence, mais il a une densité qui est déterminée par le passé parce que c'est ce qui nous détermine et par le futur parce que c'est ce vers quoi nous allons. Et dans les deux cas, c'est toujours une motivation existentielle qui nous fait être là dans l'instant.
Ça reste une perception occidentale ici que nous avons du présent. On a cette ici et maintenant, mais on peut aussi bien concevoir, comme vous dites, que le présent, finalement, c'est peut-être ce qui nous manque, c'est ce qui s'efface au fur et à mesure que nous parlons, et que les seules réalités qui soient, c'est le passé et le futur.
Je pense que je dirais que je partirais à partir de la question du sens, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui se trame à l'intérieur de nous-mêmes et qui est orienté vers le futur, ce « nous » se tisse dans l'instant qu'on appelle le présent. Hein, voilà. C'est ce que Ricoeur dit d'une autre façon, « l'homme n'est pas, l'homme devient ». Voilà, hein, presque dans une approche existentialiste sartrienne, même, on pourrait dire, voilà, on n'a pas une espèce d'essence qui est à l'intérieur de nous-mêmes, avec un destin qui est comme ça, et ce qu'il faut, c'est l'accomplir, hein, qui est du côté de la pensée grecque, par exemple, hein, être dans son destin, surtout ne pas troubler l'ordre du monde, sinon c'est, on est ou dans l'ubris ou dans le chaos, il faut accomplir quelque chose. Là, non, il y a quelque chose qui se tisse, et dans l'instant, voilà, dans l'instant, là où je parle, je tâche de devenir ce que j'ai envie de devenir, même si ça m'échappe, voilà, même si j'en sais rien. Voilà. Et d'ailleurs, probablement, une des définitions, peut-être, du bonheur, ça serait de se dire « je sens que je suis en marche vers le chemin qui m'accomplit, voilà, qui me remplit voilà, ». Hein. Donc, dans cet instant-là, en effet, tout le passé est présent, mais toute l'orientation vers l'avenir est déterminante.
Alors, docteur Dominique de Michel, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Est-ce que je peux encore dire « je n'ai pas le temps » comme je le présentais en introduction? Est-ce que ça a encore un sens de dire que mon emploi du temps est tellement serré que je n'ai pas le temps?
Faudrait lire, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, hein, qui a beaucoup écrit là-dessus. Dans votre introduction à propos des grèves, vous disiez finalement on perçoit qu'on n'a pas le temps, qu'on court tout le temps. Les expériences, quand on interroge des enfants et qu'on leur dit comment tu définirais tes parents, la première réponse qui vient le plus souvent en tout cas, c'est j'ai pas le temps. Hein, c'est-à-dire les enfants définissent les parents comme des gens qui n'ont pas le temps, voilà, ou qui sont pressés, ou c'est l'heure d'aller te coucher, oublie pas de te brosser les dents, non, on va être en retard à l'école le matin, lève-toi. Hein. Je propose juste comme ça, mais il me semble que ça revient à ce dont on a parlé au tout début. Pour moi, à partir du moment où les grandes idéologies et les grandes religions qui étaient là pour cadrer ce questionnement, de manière pertinente ou de manière impertinente, de manière abusive ou de manière juste, autour de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, à partir du moment où, on va dire, au moins ces grandes religions ont perdu leur pertinence pour donner une réponse à cette question-là, alors l'angoisse par rapport au non-sens surgit et donc on remplit. Donc il me semble que remplir son emploi du temps, c'est là aussi, j'ai envie de dire, très contraphobique. Vous voyez, hein, c'est pour surtout ne pas avoir de temps mort. Et je vous rappelle quand même que le temps mort, c'est un temps de mort.
Eh bien, nous allons terminer notre émission là-dessus. Merci beaucoup, docteur Dominique Desmichel, et à très bientôt.
Merci Simon, au revoir.